Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Nous sommes sur Bible Espoir et nous allons développer une méditation ce matin. Sur un sujet tout à fait inédit, il s'agit d'un juge dans l'histoire de la Bible. Et nous pouvons véritablement maintenant le situer en lisant un bref texte que nous avons dans le livre qui porte le même nom, Livre des Juges, et au chapitre 11 et au verset 1er, quelques versets qui vont nous situer la situation de ce personnage. Et peut-être, si nous voulons donner d'élabore un titre, nous pouvons dire, parce que c'était les caractéristiques de cet homme qui s'appelait Jephté, tout pour mal tourner. Alors, je rappelle la situation de notre texte dans l'Ancien Testament, Livre des Juges, et je lis avec vous ceci. Jephté, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Jephté s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté, et ils faisaient avec lui des coups de main. Voilà pour notre situation et je vais donner quelques mots de commentaire qui va véritablement nous éclairer sur des vies de personnages qui ont eu des enfances particulièrement malheureuses et avec en portant des étiquettes là des toutes sortes de choses fausses, on peut appeler ça des étiquettes. Et qui, véritablement ont pu surmonter leur déboire, leur infortune, parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Alors, je commence donc, la méditation, et je voudrais tout simplement signaler dès l'abord que Jephté signifie celui qui ouvre. Alors, supposez peut-être des portes. Nous voulons bien penser que ce sont des portes qui libèrent, ou il va avoir une tâche particulière, celui qui ouvre ou celui qui libère. La première mention qui en est faite nous le présente comme un vaillant héros. C'est ce que nous avons lu il y a un instant. Et cet homme vivait dans une sombre période qu'on appelle l'époque des juges. C'était l'anarchie. Aussi, les tribus d'Israël passaient leur temps soit à guerroyer contre leurs voisins cananéens, soit à se battre entre elles. Dans ce temps de décadence, le désordre florissait, mais malgré cela, quelques hommes et quelques femmes émergeaient et se distinguaient par leur caractère de piété et leur courage. Si Jephté a eu, à la fin de sa vie, certains éléments défavorables, qui ont terni sa réputation, et on se souvient de ce vœu terrible, de ce vœu imprudent qu'il avait prononcé contre sa fille. Alors c'est à lire dans les pages du livre des juges, donc un vœu téméraire. Il n'empêche que le Saint-Esprit a cru bon devoir citer le nom de Jephté parmi les héros de la foi. C'est ce que nous dit le livre du Nouveau Testament, le livre des Hébreux au chapitre 11. Son histoire est extraordinaire en ceci, qu'il enseigne qu'il est toujours possible de s'élever au-dessus des circonstances les plus difficiles quand tout le monde nous rejette et que la tentation nous invite à nous laisser aller au découragement. La vie n'avait pas favorisé Jephté à en juger parce que, ce que nous dit le texte. Par cela, il était, nous dit, et je rappelle la mention qui est faite de ce qu'il vivait cette infortune, parce qu'il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad, son père, qui l'avait engendré. On pourrait dire qu'il était venu au monde comme une erreur, venu au monde, comme on dirait aujourd'hui, par défaut, et par la même occasion, victime de l'immoralité de son époque. Le pauvre Jephté était né et avait commencé sa vie avec de très gros handicaps d'hérédité morale et, en effet, et de son environnement. Imaginons la réputation dont il sera chargé toute sa vie, enfant, adolescent, et puis également certainement plus tard. Il est certains individus que tout accable dès le départ de leur existence, mais curieux paradoxe, Jephté craignait Dieu, et je voudrais insister sur la chose, c'est qu'il avait cette crainte de Dieu, le respect de Dieu, et toute sa vie durant, il lutta sans cesse pour relever les défis des injustices de l'existence. Une enfance marquée par l'opprobre d'une jeunesse gâchée, contraint pour survivre de chercher son gagne-pain en devenant chef de bande, avec autour de lui une troupe de pillards et d'aventuriers. Et pourtant, nous pouvons dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que notre société d'aujourd'hui est bien présente, les mêmes caractéristiques, hélas, partout, dans nos villes, et tout ça peut se rencontrer eh bien encore à notre époque. Jephté n'en demeura pas moins, en dépit de toutes ces conditions déplorables, un homme de conscience, un homme de respect de Dieu, et comme nous allons le voir, respectueux des autres, et ça c'est important, lui qu'on ne respectait pas. Jephté était de ceux, en prenant appui auprès de Dieu, qui ne s'avoue jamais vaincu par les circonstances, à tous ceux qui s'apitoient sur eux-mêmes, qui doutent de demain, qui se sentent prisonniers de quelques malheureuses conditions de vie, l'histoire de Jephté nous invite à prendre courage et à retrouver le goût de vivre. Jephté était, on peut le dire, et sans conteste, un rejeté. Premièrement, ce n'était pas de sa faute s'il était fils d'une prostituée. Toutefois, ce que l'on peut dire à son honneur, c'est qu'il ne perdit pas son temps et son énergie à pleurer sur son sort. Qu'est-ce qu'il pouvait y faire dans le temps là où le dérèglement des mœurs se généralisait? Était-il pour quelque chose si son père, dont nous avons donné le nom tout à l'heure Galade, avait eu la faiblesse de s'unir à une courtisane? Que pouvait-il contre la loi, lui le bâtard, qui l'excluait de l'assemblée des enfants d'Israël? Pouvait-il effacer la meurtrissure de la faute d'autrui qui le suivait de la naissance et certainement jusqu'à la mort? Que pouvait-il dire lorsque son père ensuite a engendré plusieurs enfants, ses demi-frères, les demi-frères donc de Jephté, de la femme qu'il avait régulièrement épousée? Aurait-il pu se défendre, seul contre tous, face à la rumeur publique? La jalousie de ses frères, eux qui avaient eu le bonheur de naître dans les liens du mariage, Jephté, l'aîné de la famille, n'avait qu'un seul droit, se taire et se faire oublier. Comment réparer de telles injustices dans la vie? Si quelqu'un à cette époque, et ça fait beaucoup pour un seul homme, pouvait nourrir une grande amertume, avoir la rage au cœur, se décourager, justifier la délinquance, se venger de sa famille ou de la société, c'était bien Jephté. On peut dire que c'était quelqu'un qui avait bien tourné alors qu'il pouvait faire exactement le contraire de son existence, tout pour mal tourner. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le plus beau message et le plus bel espoir de Dieu offert aux rejetés et aux méprisés. Parce que Jésus nous dit ceci, « Venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous avons un texte dans l'Épître aux Romains qui est écrit par l'apôtre Paul, où il est question finalement, dans Ésaïe, je trouve les pages, tout simplement au chapitre 49 et au verset 14 à 16, il est dit ceci, « Israël disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, quand cette maman, cette mère, oublierait son enfant, moi, dit Dieu, je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Un beau texte du prophète Ésaïe pour tous les méprisés et tous ceux qui souffrent du rejet des autres, dans quelque monde que ce soit, hier, aujourd'hui et certainement demain. Chassé par ses frères, il y a une expression qui en dit long, ses frères devenus grands. La méchanceté grandit souvent avec la suffisance, avec le pouvoir, avec une prétendue sagesse, et Jephté s'est retrouvé brutalement à la porte de la maison de son père, parce qu'il avait eu le tort d'être le fils d'une autre femme. Que va-t-il faire? Que va devenir Jephté qui se trouve tout simplement mis dehors? Il nous est simplement rappelé dans le texte qu'il s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté et il entrait en campagne et ils allaient en campagne avec lui. Quand il est dit à la campagne, c'était certainement pas pour prendre du bon temps, c'était pour guerroyer, c'était pour faire des coups de main, tout délinquant peut le faire, tuer son oisiveté. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté parce qu'ils reconnaissaient en Jephté une personnalité probablement. Et les gens qui suivaient Jephté avaient certainement connu le même sort que lui. Ils pouvaient se comprendre. C'était une autre famille, une nouvelle famille. Parfois, les circonstances de la vie amènent les gens à faire et à être ce qu'ils n'auraient jamais été autrement. Pour faire face à l'exclusion, Jephté n'a eu qu'une seule ressource, fuir, pour se réfugier dans le pays de Tob. Réduit pourtant au vagabondage, il aurait été facile à Jephté de franchir la barrière du mal et de la vengeance, de devenir ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un malandrin et de semer la terreur sur son passage. Beaucoup l'ont fait, beaucoup le font, mais lui, ce n'était pas son cas. Rappelons-le, il y avait quelque chose au fond de son cœur, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi le respect des autres, de la vie des autres, c'est aussi tenir compte de ce que Dieu a déclaré par rapport au bien et au mal. Et Jephté n'accordait aucune place au dépit, au ressentiment. Ça, c'est quelque chose, c'est une véritable qualité formidable. Pas de place pour l'amertume, pas de place pour l'aigreur. Il est intéressant de reconnaître la signification du nom Tob. C'est une partie en Palestine, d'un village, d'une région, petite ou grande, je ne sais pas. Mais cela veut dire tout simplement bonté. Ah, il y a quelque chose de très symbolique dans tout cela. C'est que Jephté s'est réfugié dans un espace, dans un lieu qui s'appelle la bonté. Alors c'est aussi certainement quelque chose de géographique, certainement puisque c'est nommé, mais c'est aussi quelque chose de symbolique, de moral, de psychologique, et une vertu, de la vie, du cœur des hommes. Et il est très instructif de savoir que malgré les déboires de son existence, Jephté, au lieu de se laisser aller à la haine ou à la colère, à l'emportement, à la vengeance, s'est réfugié dans la bonté. Il avait déjà tous les correspondants. Il s'est réfugié dans ce pays. Et puis, il a pu mettre en pratique ce qu'il y avait au fond de son cœur, donc la bonté. S'exerçant au dur combat de la vie, en surmontant dans l'action pour les autres ses amères déceptions. On y voit un Robin des Bois, à travers, Jephté. Pour subsister dans ces conditions, Jephté rassembla autour de lui des gens qui avaient eu certainement, je l'ai dit et je le répète, le même sort que lui, gens de rien. C'est-à-dire des laissés pour compte de la vie, des pauvres, des indigents, des désœuvrés et des parias. Et il les souda en une bande qui très vite s'est fait entendre. Que faisaient-ils ensemble? Rien ne permet de supposer qu'ils se conduisaient en bandits de grand chemin. Probablement, excusez-moi, ils opéraient des incursions de représailles en territoire étranger, réglant même la justice pour le compte de ceux qui ne pouvaient se défendre contre les puissants. C'est ainsi que Jephté a révélé ses qualités de chef, qu'il est devenu en quelque sorte un héros. Son exemple est propre à nous instruire, car il nous apprend que si courageusement et sans faiblir, nous refusons de prendre notre parti d'une infortune humiliante, et que si nous exerçons notre volonté à surmonter le mal par le bien. Ça, c'est une des grandes leçons capitales, cardinales, nous pourrions dire, du message de la Bible, mais particulièrement du message évangélique. Dieu nous fera grâce si nous prenons, cette disposition, que si nous demandons à Dieu dans la prière, qu'il nous donne cette disposition de toujours surmonter le mal par le bien. Jephté n'a pas été le seul dans son cas. Souvenons-nous de David, qui était jalousé à mort par le roi Saül, qui voulait le tuer. Et il est contraint, lui, semblable à notre personnage, de se réfugier dans les cavernes. Il a réuni autour de lui, semblablement, des hommes dans la détresse ou des hommes qui étaient endettés. Il les forme et non les déforme. Ça, c'est quelque chose, quand la haine préside, à des mauvaises choses et qu'elle forme finalement à faire des mauvais coups, c'est quelque chose qui n'est pas, quelque chose de moral, c'est plus moral, mais ça peut déformer, ça peut entraîner à toutes sortes de mauvaises actions, de cruauté. En fait, pour plus tard, ils sont devenus des vaillants, toute cette troupe de David, comme celle de Jephté, ils sont devenus des hommes et des combattants, des soldats illustres. Il y a dans l'évangile des Romains, l'évangile des Romains, on peut dire ça comme ça, mais une chose qui est bien notée, et c'est un texte qui a déjà été commenté par nous-mêmes, il est dit ceci, Romains chapitre 12, « Ne rendez personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors Jephté avait compris qu'il pouvait transformer les déficits de sa vie et s'en servir avec l'aide de Dieu, comme, d'un tremplin pour aller plus loin et réussir là où les hommes lui refusaient la réussite. On peut penser également à Jésus, parce que je voudrais terminer cette première partie sur l'homme parfait, Jésus, Messie méprisé et rejeté, qui a constitué un rassemblement immense, d'abord avec quelques hommes, 12. Ensuite, pendant tout ce ministère de quelques mois, quelques années, il a constitué finalement toute une équipe, 70, un peu plus tard après sa résurrection, 500. Mais ce rassemblement immense dont je voudrais parler est devenu ensuite l'Église, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église avec une appellation particulière, mais c'est l'église qui appartient à Jésus-Christ. Jésus le dit, je bâtis mon église. Moi, je suis le recruteur, en quelque sorte, d'hommes, de femmes qui ont faim et soif de vérité, qui sont à la mesure peut-être de Jephté, d'un David et de bien d'autres personnages. Je les rassemble pour qu'ils soient véritablement mes disciples, mes sujets. Et il nous a attirés à lui parce que nous étions des gens, passez-moi l'expression, ce n'est pas péjoratif, mais quand on n'est pas sauvé, on n'est pas sauvé. Des gens, nous étions des gens de rien, surtout des gens qui avons compris que nous étions rien sans Jésus, que nous étions rien sans le Christ, que nous étions rien sans notre Sauveur et Seigneur. Nous l'avons suivi à travers la conversion, à travers la repentance, à travers les choix que nous avons faits de changer de vie, d'aller maintenant de droite à gauche ou dans l'autre sens, peu importe, mais toujours Jésus devant nous, nous l'avons suivi dans sa marche victorieuse sur le mal, à surmonter eh bien, la vie, les difficultés, le péché, le mal, par le bien, surmonter le mal par le bien. Il nous a donné tout ce que le monde et la vie nous refusaient. Alors voilà pour eh bien, ce texte. Et nous avons besoin de faire très attention eh bien, là, à ce que nous pouvons appeler les étiquettes que nous mettons sur des gens qu'ils ne nous semblent pas très bien, pas toujours très intéressants, mal habillés, mal eh bien, avec un langage qui n'est peut-être pas le nôtre. Mais faisons attention parce que ces gens-là, quelque part, eh bien, ils portent une souffrance en eux. Et s'ils sont repoussés par la société, eh bien, en tous les cas, Dieu ne les repousse pas, il les appelle. Bien au contraire. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul, et je termine sur cela, a écrit cette parole dans, il me semble-t-il, dans Corinthiens, il nous est dit qu'il n'y a pas, il y a parmi vous, parmi les chrétiens, parmi l'Église de Jésus-Christ, peu de gens qui soient des nobles, qui soient, eh bien là, en effet, des intellectuels, bien qu'il y en ait, hein, bien sûr, naturellement, des gens qui ont des situations en vue, etc., etc. Oui, mais il a été choisir les pauvres, il a été choisir les méprisés, il a été choisir ceux qui, quelque part, n'apparaissent pas dans la société et qui sont cachés, parce que peut-être que ça fait honte à notre société, hein, de tels individus, mais ce sont, et ça peut être aussi des enfants de Dieu, à l'image de Jephté. Alors, moi je pense qu'il y a derrière certainement des choses qui sont très intéressantes à prendre en compte, surtout dans notre société où il y a tant de problèmes sociaux, où il y a tant de problèmes de rejet, bien que la société, il faut le reconnaître, fait beaucoup d'efforts hein, pour essayer d'endiguer, mais voilà, c'est ainsi. Et je crois que nous avons besoin d'avoir une vision qui soit la vision de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, oui, il l'a tant aimé tel qu'il est, à la lumière que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est qu'il est venu pour les pauvres, il est venu pour les riches, il est venu pour les nantis, il est venu pour les infortunés, il est venu pour les malades, il est venu pour tous ces gens qui, quelque part, ne paraissent pas et sont rejetés, sont critiqués, sont jugés, sont, eh bien là, mis à la porte, eh bien, par le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que le monde aspire à un monde idéal, à un monde parfait, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus... Mais on est loin du compte. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et nous voulons tout simplement, eh bien là, tenir compte de tout cela. Et nous verrons la prochaine fois la suite de cette partie que nous avons ouverte aujourd'hui. Et que je nommerai tout simplement, eh bien là, cette deuxième partie, ça sera attention aux étiquettes. Attention à ceux que nous rejetons sans les connaître, hein, mais ils peuvent être au service de Dieu et relever tous les défis qui soient. Alors, que Dieu nous bénisse. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez nous suivre avec des messages audio, avec des messages vidéo, avec également la page imprimée que nous avons eh bien, là sur YouTube. Plus de 70-75, en effet, messages vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Spotify. Ça, vous l'avez, il est en incrustation sur notre page de garde. Alors voilà, nous allons tout simplement eh bien, remercier le Seigneur dans notre cœur et puis garder cette leçon pour nous-mêmes en essayant eh bien, de vivre au plus proche de ces sentiments qui nous sont rappelés ce matin. Et je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci.